Décryptage. Clotilde Dumais.
C'est le troisième dirigeant allemand avec lequel Emmanuel Macron va travailler. Friedrich Merz sera officiellement élu chancelier demain par les députés du Bundestag. Dès le lendemain, comme le veut la tradition, il effectuera son premier voyage à l'étranger, à Paris. Une première étape pour ce nouveau couple franco-allemand qui aspire à redevenir un véritable moteur pour l'Union européenne face aux hostilités américaines de Donald Trump et après plus de 3 ans d'invasion russe en Ukraine. Alors, quelle relation Emmanuel Macron et Friedrich Merz vont-ils entretenir? Quelles avancées les Européens peuvent-ils espérer? Et quelles limites les deux dirigeants rencontreront-ils peut-être dans leurs ambitions? On en parle dans Décryptage. Et j'accueille en studio Paul Maurice, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. C'est donc un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à partir de demain avec l'arrivée de Friedrich Merz à la chancellerie. Et puis un autre qui se referme avec donc le départ d'Olaf Scholz, son prédécesseur, le social-démocrate qui était à la chancellerie lui depuis fin 2021. Sur le papier, Paul Maurice, son arrivée était plutôt prometteuse en ce qui concerne le couple franco-allemand avec Emmanuel Macron. Finalement, cette relation s'est avérée un petit peu plus décevante que prévu. D'abord parce que, peut-être sur la forme, les deux hommes n'ont pas du tout le même caractère, sont assez différents.
Effectivement, Olaf Scholz était un chancelier plutôt discret, un homme du nord de l'Allemagne qui est tourné vers l'Atlantique plus que vers l'Europe, et puis qui est arrivé un peu par hasard en 2021. On ne le promettait pas à la chancellerie, et puis la campagne ratée de son concurrent de la CDU, Armin Laschet, a fait qu'il est in fine passé devant la CDU et qu'il a pu construire cette coalition inédite avec 3 partis qui, vous l'avez dit, sur le papier, était assez encourageante, puisqu'on avait des écologistes, notamment aux affaires étrangères et dans différents ministères, qui étaient très pro-européens et dont le discours était assez proche, finalement, de celui d'Emmanuel Macron, qui avait été développé dans le discours de la Sorbonne de 2017. Et puis, Olaf Scholz avait montré des gages pour la relation franco-allemande. Il avait déclaré « je viendrai à Paris », ce qu'il a fait dès son élection. Il faut surtout noter que cette coalition a eu des difficultés qui ont été inhérentes à sa création, avec les divergences entre les différents partis qui la composaient, avec les libéraux notamment. Mais c'est surtout la guerre en Ukraine qui a conduit à des grandes difficultés pour cette coalition, sur ses grandes ambitions.
Arrive quelques mois, cette guerre en Ukraine, après...
Quelques semaines même, puisque Olaf Scholz est élu début décembre. La guerre en Ukraine commence fin février. Donc tout ceci a remis en cause et a fait que l'Allemagne s'est un peu recroquevillée sur elle-même, qu'elle a eu du mal à se projeter dans cette souveraineté européenne que Olaf Scholz, que Emmanuel Macron avait prôné, alors qu'il y avait de grandes ambitions. Et puis, une question de caractère, parfois, ça n'a pas empêché que les deux hommes ont travaillé ensemble. Ils se sont vus très régulièrement dans les grands moments charnière de cette période, il y en a eu beaucoup, mais finalement il y a eu un manque d'alchimie, pour reprendre le terme que Friedrich Merz a reproché à Olaf Scholz.
Sur la politique, c'est vrai, étrangère, on parle de l'Ukraine, il y a eu aussi quand même la guerre dans la bande de Gaza, et la relation à Israël, où on a la sensation que là aussi les deux dirigeants n'étaient pas forcément totalement raccord.
Il y a eu des difficultés, mais des difficultés qui sont inhérentes à la conception de la relation entre l'Allemagne et l'État d'Israël, pour les raisons historiques que l'on connaît. Olaf Scholz a accepté cette idée que Angela Merkel avait développée, que l'existence et la défense de l'État d'Israël fait partie de la raison d'État de l'Allemagne, alors que la tradition française, même si elle est quand même très liée à l'État d'Israël, est quand même beaucoup plus sur la tempérance dans la région. Donc ça a créé aussi des difficultés. Et puis les difficultés internes en Allemagne, j'y reviens, ont fait que les dirigeants ont du mal à se projeter et que les divergences entre les partis, notamment entre les écologistes et les sociaux-démocrates, entre la chancellerie d'une part et le ministère des Affaires étrangères d'autre part, avec Annalena Baerbock comme ministre, très européenne d'ailleurs, ont fait qu'on a eu du mal à trouver un équilibre et que souvent tout ceci s'est un petit peu figé faute de décisions prises par Olaf Scholz.
Est-ce qu'on peut dire, du coup, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que donc pendant ce mandat d'Olaf Scholz, l'Union européenne n'a pas vraiment avancé, ou voilà, on peut quand même noter quelques petites avancées avec Paris ?
L'Union européenne a avancé, elle a avancé difficilement. Il y a eu de grandes difficultés, notamment sur la question du marché de l'électricité, de grandes tensions franco-allemandes, mais on a abouti à quelque chose. On a abouti à un pacte asile et migration à l'échelle européenne qui devrait entrer en application l'année prochaine. Donc il y a eu des choses qui ont été faites en franco-allemand. Mais sur les questions de l'énergie, les écologistes notamment, je ne veux pas tout leur mettre sur le dos, ils avaient leur raison. Et puis d'autre part, la France, sur ses lignes idéologiques sur le nucléaire, ont fait qu'il y a eu des grandes tensions. Le fait que la France a été aussi rapidement dans des difficultés politiques, la réélection d'Emmanuel Macron et puis une majorité relative en 2022 à l'Assemblée nationale a fait qu'il était devenu plus difficile pour la France de se positionner comme un leader européen important.
Alors, on va voir si ça va aller plus vite donc avec ce nouveau chancelier, Friedrich Merz, qui lui fait clairement comprendre, quand même dans ses discours, que l'Union européenne est a priori assez importante pour lui. Exemple, encore pas plus tard que la semaine dernière, à Valence, en Espagne, c'était lors d'une réunion du Parti populaire européen, donc le groupe de centre-droite, le plus grand groupe du Parlement européen, il a pris la parole.
De mon point de vue, dans mon futur gouvernement, vous pouvez compter sur nous. Et nous serons prêts à tenir nos promesses. Et nous serons prêts à former l'un des gouvernements les plus fervents partisans européens que vous n'avez jamais vu d'Allemagne.
Voilà, Friedrich Merz, un Européen convaincu a priori. Un mot peut-être sur son parcours, Paul Maurice, puisque justement, il a commencé quasiment sa carrière politique en tant que député européen. C'est un signe ?
C'est sûrement un signe et ça a en tout cas marqué sa carrière politique. En 89, quand il a été élu député européen, il a compris l'importance de la construction européenne. Mais ce n'est pas seulement son parcours individuel, c'est aussi l'héritage qu'il porte comme chrétien démocrate, l'héritier directement de Wolfgang Schäuble, qui a été ministre des Finances, et puis d'Helmut Kohl indirectement, et encore indirectement de Konrad Adenauer. Donc dans ce parti, le parti chrétien démocrate, la CDU, il y a un héritage franco-allemand très très fort. Et pour Adenauer, l'ancrage à l'Ouest dans les années 1950 et 1960 passait par trois choses, c'est-à-dire d'une part la relation transatlantique très forte et très présente chez Friedrich Merz, on va y revenir, la relation franco-allemande pour la construction européenne et tout ceci en convergence avec les intérêts nationaux allemands. Et on a l'impression que Friedrich Merz est un peu dans la même logique, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts nationaux allemands dans lesquels on peut faire avancer la construction européenne, et il faut le faire avec la France. Il a aussi, dans sa tradition personnelle, catholique, rhénan, alors il a une famille d'origine française, il en parle peu puisqu'il a un grand-père qui était nazi et qui portait un nom français, donc sur le papier, ça fait un peu mauvais genre, mais en tout cas, il a un héritage personnel français. Il est tourné vers la France, et il l'est de manière très sincère. Mais attention, c'est pas parce qu'on est francophile, comme l'était Wolfgang Schäuble, que la politique franco-allemande va bien se passer. Il ne va pas renier son héritage chrétien-démocrate, conservateur, libéral, et notamment sur les aspects financiers et budgétaires qui posent problème avec la France, à l'échelle bilatérale mais aussi européenne. Il peut y avoir des tensions qui vont arriver.
Allons-y. Pardon, on va revenir effectivement sur ces tensions, mais peut-être une parenthèse quand même sur sa relation avec Angela Merkel, puisque voilà, en France, on a beaucoup parlé de cette chancelière et lui, on le surnomme l'anti-Merkel. On imagine aussi que voilà, ça aura forcément des conséquences probablement dans sa façon de gouverner.
C'était Angela Merkel qui était aussi l'anti-Merz. C'était assez réciproque. C'est-à-dire que dans l'héritage d'Helmut Kohl, il y avait une concurrence entre les deux pour prendre la tête du parti. Et c'est Angela Merkel qui a gagné, qui a évincé Friedrich Merz de la tête du groupe parlementaire. Et ils avaient deux approches différentes. C'était un catholique rhénan héritier d'une démocratie chrétienne très conservatrice, catholique. Elle était une protestante de l'Est, plus à gauche, dirons-nous, ou plutôt de centre-droit, et qui a réorienté la démocratie chrétienne vers le centre-droit. Et donc, c'est sur cet héritage-là qu'il souhaitait revenir. Il l'a bien marqué depuis son élection à la tête du parti à la fin 2021, début 2022. Il l'a marqué dans la campagne, mais on voit que la nécessité politique de gouverner, notamment avec les sociaux-démocrates, fait qu'il est aussi obligé de prendre avec lui une partie de l'héritage d'Angela Merkel, la même Angela Merkel qui a d'ailleurs félicité ce contrat de coalition que Friedrich Merz a signé avec les sociaux-démocrates. Donc la réalité politique va bien sûr sûrement orienter sa politique plus à droite que ne l'a fait Angela Merkel, notamment sur la question migratoire, mais elle reste malgré tout une politique de compromis comme savent le faire les Allemands.
Côté français, Paul Maurice, Emmanuel Macron, lui, a connu Angela Merkel, il va donc connaître Friedrich Merz. Sur le papier d'abord, d'un point de vue peut-être sur la forme, On dit, en tout cas l'Élysée aime bien dire que voilà, a priori, les relations pour l'instant entre les deux hommes se passent plutôt bien, qu'ils semblent un peu se comprendre.
Ça semble être le cas. Alors, je ne suis pas dans les petits papiers du président de la République ni du futur chancelier, mais il semble que les deux hommes, en tout cas, aient une vision de l'Europe, une vision de la relation franco-allemande qui peut converger. Et il semble surtout que ce soit deux hommes avec un fort caractère, qui aiment se dire les choses, et il est probable que même s'ils ne sont pas d'accord, ils se disent les choses. Il y a aussi peut-être un fantasme du côté français que cette relation avec Olaf Scholz n'était pas assez bonne et que ça va être forcément mieux. Il ne faut pas trop fantasmer les choses. Comme je l'ai dit, Friedrich Merz ne va pas résoudre tous les problèmes franco-allemands. Mais on en revient à cette question de l'ADN de la relation franco-allemande qui vient de cet héritage des couples qu'on évoque souvent, Adenauer de Gaulle, Schmitt, Giscard d'Estaing, Kohl-Mitterrand. Et on a besoin peut-être d'être rassuré à toutes les échelles de la relation, qu'elle soit politique, culturelle, économique. Il faut que les deux chefs s'entendent pour que les choses avance. En tout cas, ça permet de rassurer un environnement aussi européen d'autres pays qui voient une forme de convergence, voire de connivence. Est-ce que tout ceci, est-ce que cette alchimie va permettre de résoudre tous les problèmes ? Il reste 2 ans à Emmanuel Macron à la tête de l'État. C'est très peu. C'est ce qui restait à Jacques Chirac quand Angela Merkel a été élue chancelière. Mais le contexte est assez différent et il est possible, je pense, étant donné leur caractère, d'aller vite et de faire avancer les choses, puisqu'ils ont tous les deux envie de rester dans les livres d'histoire.
Et puis, dans ce nouveau gouvernement de Merz, on a aussi quand même certains ministres qui semblent peut-être avoir particulièrement envie de coopérer avec la France. Je pense au nouveau ministre des Affaires étrangères, hein, proche du même parti en tout cas que Friedrich Merz, Johann Wadphul, qui est même venu à Paris récemment, qui prépare un peu le terrain.
Effectivement, Johann
qui est venu à l'IFRI.
qui est venu chez nous à l'IFRI, que nous avons rencontré et nous avons écouté. Et il a une logique très franco-allemande dans son approche de la politique étrangère, en tout cas de concertation avec la France, ce qui est fondamental quand on veut mener une politique étrangère à l'échelle européenne, ou en tout cas convergence à l'échelle européenne. Une politique dans le dialogue, dans la discussion, et surtout sur les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, pour pouvoir trouver des compromis. Ce que vous dites est très important, puisque depuis 1966, le ministère des Affaires étrangères n'était pas du même parti que celui du chancelier. Et donc, de retrouver cette convergence avec la création, en plus d'un Conseil national de sécurité, fait qu'on va avoir une sorte de cohérence dans la politique étrangère de l'Allemagne, une cohérence qui va permettre d'infuser cette relation franco-allemande et européenne. On peut citer aussi Günther Kirchbaum, qui va être ministre adjoint ou délégué chargé de l'Europe, qui est un grand européen. Il a été président de la Commission des Affaires européennes. C'est un grand ami de la France. Il connaît très bien la France et il va sûrement beaucoup travailler avec son homologue Benjamin Haddad. Puis on a d'autres personnes, peut-être un peu moins visibles. Je pense à Stéphanie Hubich, qui va être ministre de la Justice, qui était jusque-là ministre de l'Éducation et de la Formation en Rhénanie-Palatinat, donc un land frontalier de la France, qui avait développé une politique culturelle, une politique éducative très franco-allemande dans la relation de sa région, la Rhénanie-Palatinat, avec la Bourgogne, avec laquelle elle est jumelée. Donc on a des personnes qui ont cette sensibilité franco-allemande, et je pense que c'est très important. Je dirais une dernière chose peut-être sur Carsten Schneider, qui était jusque-là délégué à l'Est, aux Allemands de l'Est, dans le précédent gouvernement, qui va devenir ministre de l'Environnement. Et nous avons besoin aussi d'une relation franco-allemande dans ce qu'on appelle les nouveaux Bundesländer, donc à l'est de l'Allemagne, là où l'extrême droite fait des scores très impressionnants, et là où s'est rendu le président de la République lors de la visite d'État en mai dernier, à Dresde. Il faut aussi faire du franco-allemand pour tous ces territoires plus éloignés de la frontière française, pour que les deux États puissent converger aussi vers les territoires de l'est de l'Europe.
Clotilde Dumais.
À la suite de ce décryptage sur le nouveau couple franco-allemand entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz, nous sommes toujours avec Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet concernant les dossiers importants, on pense évidemment d'abord à la défense, aux finances. Sur ce point, Friedrich Merz a proposé un plan de plusieurs centaines de milliards d'euros pour réarmer et pour moderniser l'Allemagne. Sur les questions militaires et notamment sur l'Ukraine, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller dans le même sens qu'Emmanuel Macron ? Est-ce que les deux hommes pourraient s'entendre et aller relativement loin ?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend dans « aller relativement loin ». En tout cas, une chose est sûre, c'est que Friedrich Merz et l'ensemble de son entourage, Johann Vadefoul également, s'est prononcé pour un soutien ferme et définitif à l'Ukraine, quelle que soit la situation sur le terrain. Et ça, c'est assez fondamental, puisqu'on a vu qu'à la fin, Olaf Scholz, probablement pour des raisons internes à son parti et des raisons de politique intérieure, s'est montré plus conciliant, on se souvient de la mise en scène de son appel à Vladimir Poutine, parce qu'il est vrai, une partie des sociodémocrates est plutôt pacifiste. Là, on a une politique ferme, on a une direction ferme. Il y a un débat qui anime l'Allemagne actuellement, c'est la question de la livraison des Taurus, qui a subi les menaces de la Russie, puisque la Russie a dit que cela serait un acte de guerre et d'agression. Il y a de grandes divergences au sein du gouvernement, donc il est possible que ça prenne encore du temps. Est-ce que l'Allemagne livrera des Taurus ? Nous verrons bien. Je sais qu'il y a toujours cette question en suspens quand on pose la question de la défense de l'Ukraine, c'est la question des troupes au sol dans une éventuelle mission de pacification. Il faut juste se rendre compte de ce que ça voudrait signifier pour l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne a pour tradition, et ça avait été à l'époque de Kohl bien théorisé, que l'armée allemande ne va pas être présente dans les territoires qu'elle avait occupés durant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut comprendre que les opposants à cette intervention allemande en Russie ou en Allemagne vont utiliser cet événement, s'il a lieu, pour dénoncer un néo-nazisme allemand de ce gouvernement de merde. Donc il y a aussi des limites et des lignes rouges que le gouvernement allemand ne pourra pas franchir. Là où on peut avoir un travail en commun, c'est sur la question de l'industrie de défense. Et c'est fondamental, puisque c'est là-dessus que la France et l'Allemagne peuvent converger pour trouver des complémentarités, notamment sur les questions des munitions, sur la question des matériels, qui sont produits de manière différente pour des raisons différentes en France et en Allemagne.
En revanche, il y a peut-être un sujet qui est un peu moins consensuel, qui risque de faire un peu plus grincer les dents, c'est tout ce qui concerne le commerce, à la fois sur peut-être la réponse à apporter aux droits de douane voulus par Donald Trump, et puis sur tout ce qui est libre-échange, et notamment ce traité avec les pays du Mercosur, où là, clairement, Allemagne et France sont pour l'instant plutôt opposés.
La question de l'accord avec le Mercosur, c'est un peu un serpent de mer en franco-allemand qui revient régulièrement quand on parle des tensions. Pour le moment, je pense que la France n'est pas prête à l'accepter pour des raisons de politique intérieure sur la question des produits agricoles français notamment. On n'a pas envie de revivre des émeutes agricoles comme on en a vécu il y a un an et demi. Est-ce que les agressions tarifaires de Trump vont pousser la France et l'Allemagne à s'entendre, puisqu'il faudra bien trouver une solution, trouver de nouveaux débouchés? Pour l'Allemagne en particulier, mais aussi pour la France, il y a de nombreux industriels français qui plaident pour cet accord avec le Mercosur. Ça, seul l'avenir nous dira. Et le caractère erratique des décisions de Donald Trump font qu'il est difficile de se projeter. En tout cas, le débat va être ouvert, peut-être de manière moins passionnelle que ce n'était le cas jusque-là. Sur la question des droits tarifaires avec Donald Trump, il y a toujours un risque, et c'est là-dessus que compte Donald Trump, c'est que les Européens y aillent de manière dispersée, que chacun aille négocier au cas par cas, filière par filière, la question des droits de douane. Et pour l'Allemagne, c'est fondamental parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'importation des véhicules, mais aussi des pièces détachées qui sont nécessaires pour la construction des véhicules produits aux États-Unis. Et c'est pour ça que ce sera peut-être moins compliqué, puisque Donald Trump va finir par se rendre compte qu'il a besoin de ces pièces détachées et que cela pourrait avoir un effet sur les prix des véhicules américains produits aux États-Unis. Attendons de voir cette pause que Donald Trump a annoncée et essayons d'anticiper tout cela et d'essayer de faire une cohérence dans cette réaction franco-allemande.
En tout cas, Friedrich Merz sera donc à Paris juste après son élection officielle, donc mercredi, hein, c'est un peu une tradition. Est-ce qu'on peut s'attendre, Paul Maurice, à de premières annonces concrètes et plus largement, en fait, pour terminer, comment est-ce qu'on peut effectivement imaginer les deux dernières années d'Emmanuel Macron, qui a quand même fait de l'Europe à l'origine l'un des sujets principaux de ses mandats? Voilà, est-ce qu'il va essayer de tout miser, on va dire, sur Friedrich Merz pour essayer d'avoir un bilan positif à l'arrivée?
Je pense que c'est son objectif et ça montre son dynamisme depuis quelques semaines. D'autant plus que Friedrich Merz lui donne raison sur certains sujets, notamment sur la question qui remet la France au centre du jeu sur les questions militaires avec la question de la dissuasion nucléaire. Le débat a été relancé par Friedrich Merz. Il avait été lancé d'ailleurs par Johann Vadefoul dans un article en 2020. Donc ce débat remet la France dans son rôle stratégique habituel, c'est-à-dire une puissance militaire sur le continent. Et Friedrich Merz va essayer de refaire de l'Allemagne une puissance économique et industrielle telle qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'on essaie de se rassurer en reprenant les rôles respectifs des uns et des autres. Il va falloir aller vite, les choses vont s'accélérer, l'actualité internationale s'accélère, on va voir comment tout ça va se passer, mais en tout cas, il y a de grandes potentialités pour une vraie relation franco-allemande et un approfondissement de l'Union européenne.
Merci beaucoup, Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et je rappelle que vous pouvez réécouter ce décryptage en podcast sur notre site internet et notre application.